BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom sur BFM Business. Aujourd'hui, Assaël Adari viendra nous parler de son dernier livre. Ça s'appelle République Bastille sous les manifs, la com. On s'intéressera aussi au marketing d'influence, spécifiquement dans le domaine de la beauté, avec Thomas Repelski, le PDG de Lefty, et Eric Brionne, le cofondateur de la Paris School of Luxury. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Mélodie Charles, c'est la directrice marketing client de Conforama. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Et comme chaque semaine, j'ai le plaisir de retrouver Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et Marie Valogne pour les news. Bonjour Marie.
Bonjour Aurélie.
Alors Marie, cette semaine, l'Observatoire des slogans 2019 a été publié. Ce sont 9200 slogans qui ont été passés en revue par l'agence sous le logo.
Exactement. Et le principal enseignement de l'étude, c'est que le mouvement MeToo s'est invité dans la stratégie des marques. Des marques qui prennent en compte le besoin d'arrêter les clichés dans la pub, de revoir les représentations des femmes et des hommes. Et puis l'Observatoire nous dévoile le classement des mots les plus utilisés. On trouve donc plaisir, ensemble et bio. Le bio qui a été la grande tendance de l'année passée. Le terme a été utilisé dans différents secteurs, alimentation et distribution, mais aussi, et c'est une première, dans le secteur boissons et toilettes beauté.
La SNCF, de son côté, remercie les voyageurs qui contribuent à préserver la planète en préférant le train.
Le film met en scène un feu d'artifice de fleurs. Sur chaque bruit de pétard, une fleur éclot, puis une autre, et ainsi de suite jusqu'au bouquet final. Pour chaque fleur, 14 000 photos ont été assemblées. Au total, 50 variétés de fleurs et plus de 200 heures de tournage ont été nécessaires au tournage. Et puis le message de la SNCF s'affiche à la fin de la publicité. Chaque jour, vous êtes 5 millions à préférer le train. C'est autant de CO2 en moins dans la nature. La campagne est orchestrée par TBWA Paris.
Et puis la FDJ qui célèbre les futurs gagnants. Il faut dire, Marie, c'est très drôle.
Un millionnaire tous les deux jours, et vous, êtes-vous prêt? C'est la question posée par la Française des Jeux dans sa dernière campagne. Elle nous dévoile trois films, trois scènes où l'on découvre des joueurs assidus qui se préparent à gagner, et notamment ce couple de retraités en pleine répétition.
Et maintenant, si je te disais qu'on a gagné 1 million d'euros, qu'est-ce que tu ferais?
Oh là, faut faire fort, hein.
Oui. 1 million d'euros!
Montre-moi.
Mais t'as pas filmé?
Mais si, ça clignotait.
Mais il a pris 400 photos et il a pas filmé, il est content. Si on gagne, on n'aura pas de souvenirs.
On n'a pas encore gagné, on répète.
Non mais t'es pas prêt, Jean-Claude. Et moi, je peux pas gagner dans ces conditions.
Un millionnaire tous les deux jours. Et vous, êtes-vous prêt?
Une campagne signée par BETC Paris.
Frédéric Roy, est-ce que le « Êtes-vous prêt, Jean-Claude ?» c'est le nouveau « C'est le jeu, ma pauvre Lucette » ou « Au revoir, Président ?» Parce qu'en fait, ça passe dans le langage courant. Hein.
Je crois qu'il y a vraiment une tradition. Bon, parce que le produit fait rêver. Et en plus, parce que il faut dire les choses, les campagnes sont de très, très, très bonne qualité. Quoi.
Merci Marie Valogne, à la semaine prochaine.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Et une fois n'est pas coutume, on va parler d'un livre aujourd'hui avec Assaël Adari. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de République Bastille sous les manifs, la com. C'est aux éditions du Palio. Vous êtes aussi cofondateur et président du cabinet d'études et de conseil en communication Occurrence. Les manifs vus comme une opération de com. D'où vous est venue l'idée d'établir ce parallèle?
Alors, elle m'est venue du fait que nous comptons les manifestations depuis 10 ans, mais réellement pour le compte des médias depuis un an.
Ouais.
Et en fait, plus je compte, plus je me questionne sur le sens. C'est-à-dire qu'on a tendance parfois à dissocier la mesure qui serait un peu froide, etc., et puis la volonté de comprendre. Et en comptant, et donc en passant beaucoup, beaucoup de temps à regarder, à essayer de comprendre ce que c'était qu'en fait l'acte de manifester, je me suis questionné en me disant c'est finalement un format, une expression de communication. Je suis pas sociologue, je suis pas historien, donc j'ai essayé d'appliquer ce que je sais faire, à savoir diagnostiquer une marque, en me disant, tiens, si la manifestation était une marque, et les manifestations, bonnet rouge, gilet jaune, manif pour tous, etc., si on avait un regard de communicant sur ce format, ça donnerait quoi en termes de diagnostic?
Et alors, justement, en fait, qu'est-ce que ça donne en termes de diagnostic? Est-ce que c'est simplement compter, est-ce qu'une manif, on considère qu'elle est réussie parce qu'il y avait plus de monde que prévu ou plus de monde qu'avant, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments, comme dans n'importe quel plan de com, qui entrent en compte?
Tout à fait. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, le ROI d'une manifestation, pour prendre un terme très technique, le retour sur investissement d'une manifestation, c'est deux choses. C'est le nombre, et on le voit bien aujourd'hui, notre système pour les médias, on n'arrive pas à compter les gilets jaunes, et bien en fait on remplit le vide par plein d'autres choses, mais on a besoin de chiffres. On est dans un monde au 21e siècle aujourd'hui, en 2019, on a besoin de chiffres pour peser, pour circonscrire les choses. Donc quand on n'a pas le vrai chiffre, ben on regarde les chiffres de la cagnotte, on regarde d'autres chiffres, enfin voilà, on a besoin de chiffres. Et il y a une autre dimension dans le plan média d'une manifestation, c'est le temps d'antenne disponible.
Là, il est bien occupé, je crois.
Exactement.
De ce point de vue-là.
Exactement. Et souvent, on avait jusqu'à présent une sorte de corrélation entre la volumétrie de nombre et le temps d'antenne.
Et là, c'est pas le cas.
Et là, on a à faire une dissociation assez forte. J'ai envie de dire, dans l'histoire aussi, on voit que plus le nombre durant une manifestation est importante, moins elle est violente.
Ouais.
Et moins il y a de monde, plus il y a un risque extrême. Je ne vais pas dire que c'est simplement pour exister dans les médias, mais ça fait partie du plan média d'une manifestation aujourd'hui.
Vous parlez de parallèle avec des opérations de com, et en même temps, on voit bien que ce ne sont pas des opérations comme les autres. Vous, j'aime bien vous parler de sérendipité, c'est un mot qu'on aime bien.
Oui, tout à fait. Il y a quand même quelque chose dans une manifestation qui est ce hasard plus ou moins heureux qui peut apparaître, hein, vraiment dans le sens happening, finalement, d'une manifestation. C'est pour ça que ça peut aussi s'apparenter à du street marketing. Enfin, on peut oser le parallèle, même si certains vont dire qu'il est un peu osé, mais on peut le faire. Il peut se passer beaucoup de choses. On le voit aussi sur les ronds-points qu'il se passe d'autres choses que simplement de la revendication, que ça devient une sorte de mini-ZAD. Ça devient un lieu de vie, un lieu de socialisation, de lien social. Évidemment, il se passe aussi des choses négatives, hein, et on l'avait déjà vu avant sur les black blocs. On l'avait vu sur les manifestations plus classiques où il se passe des choses plutôt négatives. Mais en tout cas, on peut vraiment dérouler. Et sur les gilets jaunes, c'est le cas. On peut vraiment dérouler une sorte de diagnostic de marque avec l'emblème, le gilet. Quelle serait la signature? Quelle serait la plateforme de marque? Quelles seraient les égéries ou quelle serait l'incarnation? Tout ce qu'un DIRCOM décline pour sa marque, en fait, on peut le décliner et questionner, enfin, vraiment questionner dans le sens très ouvert du terme, le modèle gilet jaune.
Et ça va même jusqu'au slogan, en fait, quelque part.
Complètement. Alors les slogans, et là sur les gilets jaunes, on a plutôt un retour en arrière. En fait, avant les années 50, on avait des slogans assez descriptifs. Après les années 50, et moi le parallèle que je fais, c'est que justement c'est le développement de la société de consommation et de la publicité, et on va vers des slogans beaucoup plus publicitaires. Pour info, mai 68, le summum du slogan, si j'ose dire, c'est aux Beaux-Arts que ça se passe, ça s'appelle l'atelier populaire. Les Beaux-Arts, moi je dis, deviennent l'agence de pub de mai 68, sort des slogans qu'on utilise encore aujourd'hui. Et puis là, je trouve qu'on revient à des slogans beaucoup plus terre-à-terre, qui font plutôt penser à des slogans d'avant 50, avant 60. Les slogans deviennent aussi des marques. Je suis Charlie, créé par un directeur de création. L'INPI a refusé le dépôt de Je suis Charlie. Et là, pour info, pour l'anecdote, il y a plus d'une vingtaine de tentatives de dépôt de la marque Gilets jaunes.
Plus d'une vingtaine,
plus d'une vingtaine aujourd'hui, dans tous les sens, par des politiques, par des sujets de com. Le .fr, le .com est déposé, on ne sait pas ce qu'il y aura derrière. Et je vous invite, là, c'est un petit teaser pour vous, allez voir le .org, qui est déjà ouvert, et c'est un site marchand. Et c'est un site marchand dans lequel on peut acheter des petits diffuseurs de parfums pour automobile, vous voyez, qu'on accroche sur son pare-brise.
D'accord. Donc ça a rien à voir avec
gilets jaunes.org, voilà, c'est ça, et c'est évidemment en forme de gilet jaune, hein,
voilà.
Donc on voit que la marque, voilà, et puis on se rappelle quand même que gilet jaune, c'est la campagne de 2009 de la sécurité routière.
Absolument.
C'est jaune, c'est moche, ça va avec rien, mais ça peut sauver une vie. C'était déjà donc un emblème assez puissant.
Ça commence comme une campagne.
Exactement.
Alors, il y a maintenant, parce que vous dites que les slogans cette année sont plus faibles ou en tout cas plus traditionnels qu'auparavant, mais maintenant il y a une marque obligatoire. Il y a eu des bonnets rouges. Il y a eu évidemment Je suis Charlie, mais il y a eu la fête à Macron.
Exactement. On brandise les manifestations, on leur donne un titre, la fête à Macron.
C'est les réseaux sociaux qui font ça, pour avoir un hashtag.
Il y a un enjeu assez fort de hashtag, il y a un enjeu assez fort de considérer ça comme une marque avec toute la déclinaison qui va derrière. Donc parfois un bloc marque, une identité, le bonnet rouge, un slogan, etc., etc. Oui, ça c'est une. Après, évidemment, quand on a, par exemple, la Marée Populaire, qui était aussi une marque assez forte, évidemment là, on tombe sur une marque qui est une promesse quand même très très forte. C'est pour ça que derrière, les commentateurs politiques ou journalistes avaient dit, ok, Marée Populaire, petit coefficient de marée, etc., etc. Parce que justement, le nombre était pas au rendez-vous. Donc évidemment, quand on propose une marque, il faut bien penser, mais comme un dire comme le ferait, comme un lancement de marque,
hein, à la promesse.
Exactement. Et Je suis Charlie, par exemple, c'est ça toute la puissance de la marque, parce qu'elle nous interpelle chacun par le jeu. Elle est suffisamment large parce qu'elle ne décrit pas ce que c'est qu'être Charlie. Donc chacun, elle est complètement buvard, elle est complètement aimantée. Chacun peut s'y reconnaître. Donc elle a cette puissance d'universalisation qui est extrêmement puissante pour une marque. Évidemment, la Marée Populaire, là, c'est déjà plus descriptif.
Ouais. Merci beaucoup, Assaël Adari. Et pour en savoir plus, donc votre livre République Bastille sous les manifs Lacom, c'est aux éditions du Palio.
Merci beaucoup.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Cette semaine, c'est avec Valérie Potin. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors, on parle aujourd'hui d'une polémique provoquée aux États-Unis par la dernière publicité de Gillette qui dénonce, je cite, la masculinité toxique.
Absolument. C'est un clip de 2 minutes dans lequel la marque, pour une fois, ne prend pas la parole pour nous vendre des rasoirs, mais plutôt pour inciter les hommes à reconsidérer, voire changer leur comportement, qui sont parfois sexistes, parfois machistes, parfois un peu dénigrants, à l'encontre des femmes. Alors, du coup, le film, il reprend un peu tous ces clichés sexiste, et il va surtout jusqu'à détourner quelque part le slogan historique de la marque, hein, qui est The best a man can get, le meilleur qu'un homme puisse avoir, en The best a man can be, le meilleur qu'un homme puisse être, l'idée étant de faire réagir ses consommateurs. Et du coup, c'est vrai que venant d'une marque qui a construit en fait sa communication et sa notoriété et son image sur cette image de la masculinité triomphante, c'est vrai que l'annonce a eu un vrai effet, sauf que ce n'est pas l'effet qu'escomptait la marque, puisque là, une petite semaine après la diffusion du film, on s'aperçoit que globalement, on a 3 fois plus de dislikes que de likes, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle en fait.
Qu'est-ce que ça traduit ?
Ce que ça traduit principalement, c'est qu'en 2018 aux États-Unis, oser dire à un homme que son comportement peut avoir une incidence positive ou négative sur la condition de la femme, ça reste un tabou. C'est même limite un petit peu insultant. Alors c'est un petit peu déroutant hein, quand même dans un monde surtout en pleine vague MeToo, mais on est dans un monde, on le voit bien, aux États-Unis en tout cas, qui n'hésite pas à saluer des marques de cosmétiques féminines lorsqu'elles investissent une partie de leur budget publicitaire pour influencer, pour sensibiliser le public et pour accompagner les femmes, les aider dans leur émancipation. On se souvient de Beauty Sketches de Dove, on se souvient de Like a Girl d'Always. Ouais. Et à côté de ça, on voit que cette même société, elle n'hésite pas à tacler les marques masculines du secteur lorsqu'elles essaient d'apporter leur pierre à l'édifice. Donc on a cette impression un petit peu étrange qu'on est autorisé aujourd'hui à dénoncer, à souligner les effets d'une société globalement patriarcale en fait hein, sur la condition des femmes, mais qu'il est toujours interdit de traiter le mal aux deux sens du terme à la racine. Donc ça veut dire qu'il reste encore un peu de boulot quand même.
Parce qu'on est d'accord, il n'y a aucune raison qu'il y ait cette polémique en fait.
Non, il n'y a absolument aucune raison. On aura toujours bien sûr les détracteurs des marques hein, qui pourront signaler que Gillette fait sa pub sur le dos d'une tendance, etc. Mais pour une fois, on leur répondra que oui, après tout, oui, si Gillette veut faire de l'image, c'est tout à fait normal parce que c'est un petit peu un des usages de la publicité. Mais bon, en revanche, il n'y a pas de raison d'aller au-delà. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est de se dire qu'il existe hein, des sujets, si on souhaite challenger Gillette, on peut par exemple les questionner sur l'utilisation d'allergènes dans ses mousses. Et puis on pourrait aussi, peut-être même surtout, les questionner, leur demander pourquoi ça fait quelques années qu'ils s'obstinent à nous vendre des rasoirs avec 3, 4, voire 5 lames, alors qu'ils nous ont fait une démonstration absolument imparable et magistrale il y a bientôt 40 ans, en nous expliquant que quand on a une première lame qui tire le poil et une deuxième qui le coupe avant qu'il ne se rétracte, logiquement, il n'y a plus grand-chose à raser derrière.
Là, c'est pas moi l'expert.
Je suis pas super sûr de ça, hein, Valérie.
Et moi, tant que j'ai pas cette réponse, je ne me rase pas.
Merci Valérie Potin, à très bientôt.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Cette semaine, on s'intéresse à un domaine qui nous fascine, Frédéric. On s'intéresse au marketing d'influence et qui plus est dans le domaine de la beauté avec Thomas Repelski. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Lefty, plateforme spécialisée dans le marketing d'influence. Et Eric Brionne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de la Paris School of Luxury. Thomas Repelski, vous avez justement chez Lefty fait une étude, un petit peu un point de situation sur le marketing d'influence en France. Comment il se porte ce marché? Quelles sont ses caractéristiques?
Ben, c'est un marché qui est extrêmement dynamique, où il y a beaucoup d'investissements médias sur ces influenceurs de la part des marques, et c'est aussi un marché assez mature. Ce qu'on observe du côté de l'influenceur, c'est qu'il y a 3000 influenceurs qui sont actifs dans le marché de la beauté, et il y a 50 influenceurs qui concentrent 70% de toute la valeur média qui est créée sur le secteur de la beauté.
Donc c'est un secteur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plus de followers.
Parce qu'ils ont plus de followers, donc ils vont générer beaucoup plus de likes typiquement que les micro-influenceurs. Donc c'est un marché qui est très concentré et très mature. Mature, comment on peut le voir? Par exemple, on prend Enjoy Phoenix, son nombre de followers a cru uniquement de 4% sur l'année 2018, Sananas de 15%. Mais on n'est pas porté vers une très grande dynamique sur les top influenceurs et c'est eux qui concentrent encore toutes les convoitises des marques.
Mais justement, on parle d'Enjoy Phoenix. Eric, elle a récemment dit que elle en recevait trop, que ça fonctionnait plus. Il y a donc quand même légèrement un problème dans le système.
Il y a des gros problèmes. Il y a une guerre économique qui se fait. Alors, je parle à deux secondes des États-Unis. Aujourd'hui, des études montrent qu'une célébrité est moins efficace en termes de vente qu'un influenceur digital. Donc, c'est-à-dire que ça provoque de la vente. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience complète qu'il y a un renversement de pouvoir. Les géants de l'influence prennent le pouvoir sur les marques. Et l'exemple, c'est Enjoy Phoenix, en effet, qui a fait le buzz il y a quelques semaines en disant « J'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de quoi ?» De recevoir des coffrets, de recevoir des échantillons qui, à la fois... Alors, en même temps, c'est intéressant, parce qu'au départ, dire « La pauvre, mon Dieu, tant de
oui,
coffrets.
Enfin, »
Mais sa justification était hyper intéressante. C'est qu'elle disait « Oui, déjà, c'est encombrant au possible, ça pollue. » Donc là, vraiment, l'item pollution, on demande aux marques de s'engager, les influenceurs s'engagent. Et donc, l'item pollution, et en plus, elle montre vraiment des packages gigantesques pour faire du buzz, pour faire de l'Instagram, si vous voulez, pollue. Et le deuxième point, qui est là pour les marketeurs, absolument pas ciblé. C'est quand une marque lui envoie le produit, c'est toute la gamme, pas ses produits. Donc vraiment un renversement de tendance.
Donc en fait, elle devient conseil de la marque.
Elle devient conseil de marque, voire elle devient la marque même. Et c'est ça qui est intéressant en termes de mutation, c'est qu'aujourd'hui, les influenceurs, les gros influenceurs, créent leur propre marque avec l'aide ou pas des marques. Par contre, du coup, qui paye? C'est les micros, les nano-influenceurs, qui, eux, ont la vie dure, comme votre émote le dit.
Ils ont la vie dure. Effectivement, le problème de Enjoy Phoenix, c'est un problème de riche. Hein.
Oui, c'est ça.
Légèrement.
Elle est le monstre qu'elle a elle-même créé.
Exactement. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'influenceurs qui seraient ravis de recevoir autant de produits qu'elle. Cette pratique, ça s'appelle du seeding. C'est une pratique que les RP connaissent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, il consistait à envoyer des produits aux journalistes. Aujourd'hui, on envoie des produits aux influenceurs. Ils appellent ça IRP. L'idée, c'est la suivante. J'envoie un produit à Enjoy Phoenix avec 4,5 millions de followers. Imaginez, elle le reprend en post ou en story, c'est jackpot.
Et donc, c'est vraiment jackpot? Est-ce qu'il y a un vrai retour sur un investissement?
Ça, c'est une excellente question, très compliquée. Une des limites de l'influence aujourd'hui, c'est de pouvoir mesurer les retours sur investissement. Aujourd'hui, on arrive à mesurer de la visibilité. On arrive à savoir quel est le nombre d'impressions que va générer un post ou une story. Mais c'est très difficile de le lier à la vente. Par contre, évidemment, on arrive à comprendre qu'il y a un impact sur les ventes. On arrive, avec des études économétriques, à voir des corrélations entre la valeur média qui est générée par les influenceurs et les ventes elles-mêmes. Mais on est encore au balbutiement de ce type de méthodologie.
Mais si je me permets, il y a un avantage extraordinaire. Quand on voit ces marques créé par les influenceuses, ça donne envie d'entreprendre. Et je vois auprès de mes étudiants, les plus jeunes, c'est la génération Z, que le désir de créer sa marque de beauté, sa start-up beauté, est de plus en plus fort. C'est quoi? C'est l'exemple de Kardashian qui est un véritable carton. C'est l'exemple de...
Elle n'a pas le même background, ni le même packaging.
Mais sauf qu'elle a utilisé, elle a compris les influenceurs, elle est elle-même influenceuse. Et sa stratégie, elle est juste redoutable. Elle n'a pas joué canon, elle a été divine là-dessus.
Alors elles sont quand même ces jeunes étudiantes et les influenceuses installées, maintenant confrontées à une nouvelle catégorie qui est pour le moins étrange, que vous connaissez bien, qui sont les influenceuses virtuelles. Exactement. Et là, pourquoi et comment est-ce que un être humain peut être influencé sur ses achats par un robot?
Parce que l'influenceur virtuel, on va dire, c'est du faux.
Oui,
mais non, parce qu'elle assume qu'elle est virtuelle. Okay. Elle assume pleinement. Elle assume qu'il n'y a pas de mensonge. Oui, je suis un robot. Nous, on a eu la chance de créer Gaïa, et c'est mes étudiants qui ont co-créé Gaïa, la première influenceuse virtuelle française, grâce à Wands. Et il y a un contrat de lecture, comme vous. En fait, à la base, pour nous, Gaïa, et attention, le combat de Gaïa, cette influenceuse virtuelle, c'est les étudiants qui l'ont défini, c'est d'être éco-responsable. Donc, son obsession, c'est l'écologie. Donc, ça veut dire que les marques qui tapent à notre porte pour être sponsor de Gaïa, si elles ne sont pas impeccables sur ce contrat de lecture, ça ne passe pas. Donc vous voyez, il y a ce rapport de vérité. Et puis nos étudiants ont une idée géniale pour twister et pour réenchanter la publicité. En fait, Gaïa a un pouvoir. Elle peut photographier ses rêves. Et elle met ses rêves en photo sur Instagram. Et la publicité, c'est un rêve.
Et Thomas Repelski, est-ce que c'est la fin des vrais influenceurs, alors de chair et d'os, les influenceurs virtuels?
Non, je crois pas. Déjà, on a besoin d'humains dans la vie, surtout dans cette vie qui devient de plus en plus virtuelle. Mais c'est des humains qui sont assez étranges, les influenceurs. C'est des humains qui vont être des experts de certains domaines, par exemple le domaine beauté. Ça va être des super consommateurs qui vont donner, prodiguer des conseils. Dans la beauté, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que pourquoi le secteur de la beauté cartonne aujourd'hui?
Pourquoi?
Il cartonne, juste pour vous dire des chiffres sur le secteur de la beauté, depuis 2010, le secteur augmente de 5% chaque année en termes de vente. Avant 2010, c'était 1 ou 2%. Ça coïncide exactement avec l'avènement des réseaux sociaux. Tout d'un coup, à cause des réseaux sociaux et à cause de WhatsApp et des moyens de communication digitaux, on va partager des photos de soi en permanence, des selfies en permanence. Ces selfies, il va falloir les habiller quand je suis un consommateur. Donc c'est pour ça que je vais porter du maquillage. Et c'est pour ça aussi que je vais suivre des influenceurs.
Merci, la dictature du selfie.
C'est exactement ça, selfie. Attention. Le selfie, le mot de l'année 2014. Oxford Dictionary.
Et le mot 2019, c'est les hommes. Les hommes influenceurs beauté arrivent vraiment en force. En Chine, ils font l'alpha et l'oméga.
Frédéric, je sens que
tous
ça vous inspire déjà.
Tous les espoirs sont permis, c'est formidable.
Merci beaucoup Thomas Repelski, PDG de Lefty, et Eric Brion, cofondateur de la Paris School of Luxury.
Professionnels de la communication, inspirez-vous des plus belles opérations de mailing avec La Poste Solutions Business.
BFM Business, Hebdo.com, Solutions Mailing.
Avec cette semaine, Mélodie Charles, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice marketing client de Conforama. Vous venez nous parler d'une opération de mailing que vous avez fait autour de votre collection printemps-été. Parlez-nous de cette opération. Qu'est-ce que c'était?
Alors, tout à fait. En fait, à l'occasion de la sortie de la collection printemps-été de Conforama, nous avons déployé un dispositif de communication très complet, donc avec, comme classiquement, un prospectus, de la radio, des médias digitaux. Et nous avons souhaité, en fait, compléter cette opération par une démarche relationnelle auprès de nos meilleurs clients, et donc par le biais d'un mailing qui était extrêmement innovant, puisque pour la première fois nous y avons intégré la réalité augmentée.
Alors est-ce que quand même envoyer comme ça un prospectus, c'est pas prendre le risque que ça finisse directement à la poubelle?
Alors non, pas du tout, puisque justement on souhaite vraiment utiliser le format mailing adressé, puisque on sait que c'est vraiment un format qui est très apprécié de notre clientèle et qui est conservé, puisque en fait on a voulu avoir vraiment une démarche positionnante et valorisante dans le discours. Mm-hmm. Et donc on sait que ces supports sont extrêmement conservés par nos consommateurs.
Alors, vous parliez de réalité augmentée. Comment ça se passe? Il fallait scanner la page, c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc, on a pris le parti d'avoir un mini-guide, un extrait de collection, un mailing avec plusieurs pages. Et les différents produits de notre nouvelle collection étaient présentés sous forme de mise en ambiance sur chacune des pages. Et chacune des pages était donc scannable et également cliquable. Et lorsque le client cliquait sur un des produits de cette collection, il avait la capacité à aller sur le site conforama.fr et donc à découvrir les caractéristiques produits, mais également les nouveaux coloris de ces produits et éventuellement d'autres produits de la nouvelle collection Conforama.
Est-ce que vous avez pu mesurer les retours de vos clients?
Oui, tout à fait. Donc, on les a mesurés d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Ouais. D'un point de vue quantitatif, on a été extrêmement satisfaits puisque de nombreux clients se sont rendus en magasin pour acheter ces produits de la nouvelle collection, mais également sur notre site conforama.fr. Et d'un point de vue plus qualitatif, on a post-testé ce mailing et les clients ont été extrêmement satisfaits. Ils ont aussi bien adhéré à cette démarche de réalité augmentée. Par ailleurs, ils nous ont dit avoir conservé ce mailing pour plus de la moitié d'entre eux pour pouvoir s'inspirer dans le cadre du renouvellement de leur intérieur.
Rapidement, qu'est-ce que vous retenez en 2-3 mots de cette opération?
Alors vraiment une grande satisfaction interne, une satisfaction aussi de nos clients et vraiment à l'ère où Conforama souhaite développer une stratégie digitale forte, il était important pour nous de pouvoir faire le lien entre un support print très traditionnel et relationnel avec justement notre site et notre sphère digitale qui est de plus en plus plébiscité par les consommateurs.
Merci beaucoup Mélodie Charles, je rappelle que vous êtes la directrice marketing client de Conforama. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.